Merci d'écouter l'Alpha 10-13. Je suis maintenant avec le rédacteur en chef de la revue Historia, Éric Pincas. Bonjour.
Bonjour.
Historia propose ce mois-ci un numéro sur l'histoire du Portugal qui s'intitule « Portugais, grandeur et nostalgie ». Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question inévitable. Pourquoi avoir choisi de consacrer un numéro entier au Portugal, à son histoire, à son peuple, à sa littérature, à ses héros ?
Tout simplement parce que depuis quelques années, à Historia, on a pris l'habitude de consacrer certains de nos dossiers à des communautés qui ont, d'une manière ou d'une autre, un lien étroit avec la France. Nous l'avions fait avec les Italiens, nous l'avions fait avec les Arméniens. Et curieusement, nous n'étions pas encore intéressés à l'histoire des Portugais. Et on s'est dit que c'était une belle opportunité, sachant que le 2 avril prochain, hein, c'est vraiment là dans une quinzaine de jours, eh bien les Portugais célébreront le 50e anniversaire de leur constitution républicaine. Et on y a vu une belle opportunité de raconter l'histoire de ce petit pays qui a été un très grand royaume et qui a véritablement aussi été, je dirais, une thalassocratie qui a régné sur les océans du globe avec de magnifiques histoires à raconter. Donc on s'est dit qu'il était grand temps de mettre les Portugais à l'honneur.
Alors entrons dans le détail de ce numéro. Ce sont 20 doubles pages au total qui sont dédiées à l'histoire du Portugal, de l'Antiquité au XXIe siècle, en passant inévitablement par les XVe et XVIe siècles portugais, ceux des grandes découvertes maritimes, en passant tout aussi inévitablement par le 25 avril 1974 et la révolution des œillets qui mit fin à 48 années de dictature salazariste. Mais ce numéro d'Historia est aussi l'occasion de mettre en lumière des figures essentielles et pourtant inconnues du grand public. Je pense notamment ici à Viriat, le Vercingétorix lusitanien qui ouvre votre dossier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors vous l'avez dit, Viriat, c'est vraiment le Vercingétorix de Lusitanie. Alors peut-être que les lecteurs fans de la série Astérix l'ont en tête, parce que dans le tout dernier album, hein, Astérix en Lusitanie, je crois qu'il y a trois petites cases seulement qui sont consacrées à Viriat, qui est présenté comme le plus grand chef que les Lusitaniens aient connu. Un guerrier valeureux, charismatique et généreux. Alors moi, je vous avoue que je l'ai découvert, ce personnage de Viriat, mais son histoire, elle est quand même extraordinaire. Au départ, c'est un petit berger qui est vraiment devenu, comme on l'a qualifié par la suite, la terreur des Romains. Et sa geste héroïque, elle a pour cadre, grosso modo, le deuxième siècle avant notre ère, précisément entre -150 et -140, lorsque les légions romaines entendent s'imposer en Lusitanie. Les problèmes commencent véritablement en -151 avec l'arrivée dans la province qu'on appelait à l'époque l'Hispanie citérieure d'un propréteur romain qui se fixe pour mission de mater les révoltes des tribus du nord-ouest de l'Hispanie avant de ravager les plaines de Lusitanie. Et c'est là que Viriat va rentrer en résistance et il va réussir à rallier derrière lui et à unifier différentes tribus de Lusitanie avant de remporter sa première victoire face aux Romains. Et là, on est en 147 avant notre ère. Et cette victoire, elle sera vraiment la première d'une longue série. Il va vraiment déstabiliser les légions romaines par la force de résistance dont il fait montre avec ses hommes. Et puis, il va venir, donc, dans un second temps, le temps de la négociation avec les Romains. Les Romains vont essayer, d'une certaine manière, d'entourlouper Viriat en lui faisant croire que c'est un homme de grande sagesse, qui peut devenir le grand ami, l'allié du peuple romain. Il y a une trêve qui va être instaurée, mais cette trêve, elle va être de courte durée, puisque le Sénat romain, en -139 de notre ère, cette fois-ci, va renvoyer des forces armées en Lusitanie, et cette fois-ci, le rapport de force va s'inverser, à savoir que les hommes de Viriat vont se retrouver effectivement affaibli et en position de domination, dominé par les Romains. Et cette fois, Viriat et ses hommes, donc, qui se retrouvent débordés, il va de nouveau jouer la carte de la négociation, Viriat, et les Romains exigent sa reddition. Si bien que il envoie des hommes discuter au Sénat romain, des compagnons à lui, des compagnons fidèles. Il envoie ce qu'on appelle une ambassade avec ses hommes de confiance. Les hommes de confiance vont être retournés par le Sénat romain puisqu'ils reviennent dans le campement de Viriat et vont l'assassiner pendant la nuit parce que les Romains leur avaient promis monts et merveilles de faire d'eux des hommes riches. Donc il se fait tuer par ses propres hommes, il est trahi par les siens. Et lorsque c'est les trois félons, les trois traîtres vont revenir à Rome, eh bien Rome va leur dire que les Romains n'ont pas pour habitude de récompenser les traîtres. Rome n'a pas coutume de récompenser les traîtres. Et c'est comme ça qu'est né le mythe de Viriat, le roi berger, qui n'a jamais cessé depuis de traverser les générations. Et ce qui est assez insolite, c'est que depuis 2019, eh bien ce Vercingétorix lusitanien, à l'initiative de l'Union d'astronomie internationale, eh bien a baptisé une exoplanète en orbite autour de l'étoile Lusitania du nom de Viriato. Et ça, je trouve que c'est un beau symbole et un beau clin d'œil de l'histoire.
Et votre explication est à l'image de tout ce que l'on peut trouver donc dans le numéro d'Historia ce mois-ci, donc le numéro qui s'appelle Portugais, grandeur et nostalgie. Et dans votre édito, Éric Pincas, vous parlez, en parlant des Portugais, d'un peuple, je cite, « audacieux, sensible, résilient, conjuguant l'optimisme et la nostalgie. Sans détour, on peut affirmer que les Portugais ont marqué l'histoire du monde par leur esprit de conquête, mais aussi par leur génie créatif, leur talent littéraire et artistique, leur capacité à ne jamais céder à la facilité et à toujours entretenir l'espoir dans les moments les plus sombres de leur destin commun. Mais alors, à votre avis, pourquoi aujourd'hui le Portugal n'est-il que le Portugal ? Autrement dit, malgré tout ce que vous écrivez, le Portugal reste aujourd'hui relégué au rang d'un petit pays de l'extrême sud-ouest de l'Europe, bien moins intéressant que l'Italie, bien moins intéressant que l'Espagne. Pourquoi l'intelligentsia, pourquoi le monde universitaire semble dédaigner le Portugal ?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de dédain, mais c'est vrai que sur la scène, on va dire, géopolitique aujourd'hui, il est vrai qu'on a le sentiment comme ça que le Portugal n'occupe plus la place qu'il mériterait dans le concert des nations. C'est toujours un peu difficile à expliquer. C'est vrai que au 15e, 16e siècle, eh bien, le Portugal a rayonné sur le monde, véritablement, par, encore une fois, ce qu'on expliquait au travers de son emprise sur les océans, des conquêtes, des explorations, de toutes ces entreprises commerciales qui ont rayonné sur la planète, jusqu'en Inde. Il y avait des enjeux stratégiques et commerciaux qui faisaient que le Portugal était une puissance incontournable. Aujourd'hui, on sait combien la géopolitique est versatile, on sait combien le jeu des grandes puissances l'échiquier a vite fait de changer les règles, les stratégies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde se divise entre la Chine, la Russie, l'Amérique. On voit bien que même un pays comme la France, aujourd'hui, a bien du mal parfois à faire entendre sa voix dans le concert des nations. On le voit bien en ce moment avec ce qui se passe avec la guerre au Moyen-Orient. On a l'impression parfois d'être un petit peu écarté du jeu, des négociations, de la diplomatie. Et je pense que pour le Portugal, c'est un petit peu la même chose. Ce pays a beau avoir un passé glorieux derrière lui, aujourd'hui, au niveau de la redistribution des cartes géopolitiques, le rapport de force a changé et le Portugal occupe une position, on va dire, plus discrète, mais pourtant, ce pays mériterait qu'on s'y attarde davantage de par son patrimoine, de par son histoire, de par le rayonnement qu'il a eu de par le monde, si on se fie, par exemple, à l'empreinte portugaise dans un pays continent comme le Brésil. Je pense encore une fois que tout ça tient à de subtils renversements d'influence géopolitique.
Vous évoquiez à l'instant la période des grandes découvertes maritimes et ça me fait penser à une autre grande figure portugaise qui fait partie de la revue Historia de ce mois-ci, une figure peut-être un peu plus connue des touristes consciencieux, disons-le ainsi. Je parle ici du roi Manuel Ier qui est à l'origine de l'art qui constitue les principaux monuments lisboètes. Parlez-nous de celui que l'on surnommait le roi épicier.
Oui, le roi épicier, on l'appelait aussi, on le surnommait aussi Manuel Ier, le fortuné. Alors, il symbolise vraiment à lui seul l'âge d'or du Portugal. Et on l'appelle le fortuné parce qu'il a eu beaucoup de chance, parce qu'au départ, rien ne le prédestinait à devenir roi, puisque dans l'ordre de succession à la couronne, ses possibilités de régner étaient quasi nulles. Mais c'est une série de deuils, d'imprévus, d'événements imprévus qui lui a ouvert la voie royale. Pour accéder au trône lorsqu'il succède à Jean II le 21 octobre 1495. Et il hérite à ce moment-là, Manuel Ier, d'un, une véritable thalassocratie. À savoir que, comme on l'a dit, le Portugal règne sur tous les océans du globe. Rappelons juste quelques dates très rapides. En 1498, Vasco de Gama découvre la route des Indes. Mmh. Deux ans plus tard, en 1500, Cabral atteint les côtes du Brésil. Et à ce moment-là, Manuel Ier nourrit une obsession majeure. C'est essayer de briser le monopole de Venise, de sa position dominante dans la redistribution des produits de luxe asiatiques en Europe. Et pour ce faire, Manuel Ier va conduire un certain nombre de conquêtes. Il va contrôler le fameux détroit d'Ormuz en 1507, un détroit d'Ormuz dont on entend énormément parler en ce moment, au vu de ce qui se passe au Moyen-Orient. Goa va devenir la capitale de l'Inde portugaise en 1510, ou bien encore en 1511, les hommes de Manuel Ier prennent Malacca en Malaisie, ce qui va assurer aux Portugais le contrôle du passage vers la Chine et des îles aux épices, d'où aussi son surnom de roi épicier. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte du XVIe siècle, Manuel Ier va vraiment faire de Lisbonne la plus grande plaque tournante commerciale d'Europe, mmh. avec ses marchés où se mêlent les épices, on l'a dit, le poivre de Bornéo, le girofle des Moluques, mais on y trouve aussi des cachemires indiens, des étoffes du Bengale, des perles de Ceylan. Donc c'est vraiment Lisbonne devient une place forte du commerce mondial, si ce n'est la place forte du commerce mondial. Et sur le plan diplomatique, Manuel Ier va là aussi rayonner, puisqu'il va envoyer ses émissaires au Congo, en Éthiopie, en Chine, à Rome. Et au niveau de sa politique intérieure, il a su mettre au pas la noblesse de son royaume. Il a réduit les privilèges féodaux, il a modernisé son administration. Il a aussi réussi à s'émanciper d'une certaine manière du pouvoir de l'Église, tout en cédant aux exigences des rois catholiques ibériques, en expulsant les juifs et les musulmans du royaume à l'époque. Et puis, on lui doit aussi ce qu'on a appelé les ordonnances manuélines de 1521, autrement dit, une grande réforme de la justice qui va aboutir à la création d'un code de loi très moderne. Et puis enfin, Manuel Ier, c'est aussi une forme d'héritage qu'il a laissé dans la pierre. Manuel Ier, c'était un roi bâtisseur. Il a imposé son propre style. On parle très souvent de style manuélin. Alors le style manuélin, rappelons qu'il s'agit d'une architecture d'inspiration gothique, au décor très exubérant, avec beaucoup de symboles maritimes pour rappeler la puissance navale, la richesse du Portugal. Et on peut citer, pour ceux qui connaissent évidemment, je ne leur apprendrai rien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je les incite vraiment à partir à Lisbonne ou ailleurs au Portugal pour découvrir ces monuments d'exception. On peut évoquer le monastère des Hiéronymites dans le quartier de Belém à Lisbonne, à l'endroit même d'ailleurs, rappelons-le, où Vasco de Gama a prié avant son départ pour les Indes. On pense à la tour de Belém, à l'entrée du Taj, au monastère de Jésus à Setúbal, au monastère de Batala, ou au couvent de l'ordre du Christ à Tomar. Tout ça, c'est vraiment, tous ces monuments sont très emblématiques de l'art manuélin. Et pour ce faire, Manuel Ier a mené une grande politique, je dirais, de mécénat, mécénat auprès des peintres. On peut citer par exemple quelqu'un comme Gil Vicente, qui est considéré comme, il n'était pas peintre, il était artiste, pardonnez-moi, il était précurseur du théâtre moderne dans la.
Oui, dramaturge portugais.
Dramaturge portugais, mais en tout cas, voilà. Manuel Ier a encouragé les artistes, il les a soutenus, que ce soit des artistes, des peintres, des gens de théâtre. Et puis, il a su s'entourer aussi de cartographes, d'astronomes, de mathématiciens qui lui ont été très précieux concernant, évidemment, l'art de la navigation qui a permis au Portugal de devenir un empire sur les mers. Si bien que, à sa mort, en décembre 1521, son fils, Jean III, va véritablement hériter d'un empire qui s'étend dès lors sur quatre continents.
Et chaque mois, je le précise ici, chaque mois dans la revue Historia, une personnalité évoque son lien avec une figure historique. Et donc, dans le numéro du mois de mars, on a le privilège de découvrir le lien que Stéphane Bern entretient avec Amélie de Portugal, qui est
la
dernière Française à être montée sur un trône. C'est dans la rubrique Tête à tête du magazine Historia, donc à découvrir.
Oui,
dans...
Il en parle avec beaucoup de passion. Ça a été l'un des de premiers personnages qui lui ont vraiment donné, qui l'ont incité à se passionner pour l'histoire telle qu'on le connaît.
Absolument. Et vous évoquez aussi dans ce numéro la diaspora portugaise, notamment en France. En quoi a-t-elle contribué à façonner l'identité du pays ?
Oui, alors il faut quand même rappeler que dans les années 50-70, ce sont vraiment des milliers de Portugais qui émigrent vers la France. Pour vous donner un chiffre, entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, on va compter jusqu'à 900 000 Portugais qui prennent les chemins de l'exil et qui arrivent en France. Ça représente à l'époque environ 10% de la population du pays. Vous imaginez, c'est quand même énorme. Et les Portugais d'alors, eh bien, font ce qu'on appelle le grand saut. Alors, je ne sais pas, j'ai pas l'accent portugais, mais en tout cas, l'expression, c'est au salto.
Exactement,
le grand saut vers l'hexagone, qui nourrit, je dirais, leurs espoirs d'une vie meilleure. Hein, parce que, évidemment, ils auraient pu aussi choisir la route du Brésil, qui a longtemps attiré les Portugais, mais dans ces années-là, d'un point de vue économique, le Brésil commence à fléchir. L'Espagne, n'en parlons pas, c'est l'Espagne de Franco, donc on ne peut pas dire qu'elle soit la plus hospitalière qui soit. Donc, effectivement, la plupart de ces émigrés portugais, ils viennent en France. Et ils viennent d'où ? Ils viennent principalement du nord du pays, hein, du nord du Portugal, où ils se sentaient d'une certaine manière condamnés à une... La plupart étaient agriculteurs. Hein, ils se sentaient un peu prisonniers d'une agriculture de subsistance qui ne leur donnait pas, qui ne leur offrait pas d'autres perspectives d'évolution sociale sur le plan social et économique. Et la misère, je dirais, c'est l'une des clés d'explication qui incite ces milliers de Portugais à prendre la route de l'exil. Et puis, évidemment, aussi, le régime de Salazar. Un certain nombre de jeunes hommes, notamment, fuient le régime de Salazar et, notamment, refusent d'être incorporés dans l'armée de Salazar à l'heure où le Portugal s'enlise dans une multitude de conflits coloniaux. On peut citer l'Angola, on peut citer les conflits qui agitaient la Guinée-Bissau ou encore le Mozambique. Et d'une certaine manière, eh bien, cette migration portugaise en France, pour les autorités françaises, elle est vraiment la bienvenue parce qu'il y a un véritable besoin de main-d'œuvre en France qui, rappelons-le, dans ces années-là, traverse l'époque qu'on a qualifiée de 30 glorieuses, une époque notamment... où on a besoin de main-d'œuvre pour bâtir les grands ensembles, les autoroutes de cette France en plein développement. Et en cela, les Portugais vont être partie prenante de cette construction de la France des Trente Glorieuses. Et rappelons aussi que les conditions de migration du Portugal vers la France étaient très difficiles, hein, et souvent clandestines. Beaucoup ont voyagé cachés dans des camions, dans le coffre de voiture, pour franchir notamment la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et puis, certains ont même pris des risques, hein, pour gravir les Pyrénées à pied. Donc, c'était pas un voyage facile, loin de là. Et dès 1964, eh bien, ordre a été donné aux autorités françaises de régulariser ces immigrés clandestins, qui étaient considérés, et ça, c'est l'historien Victor Pereira, qui est un grand spécialiste des migrations portugaises en France, qui emploie cette expression, il dit qu'ils étaient considérés, les Portugais d'alors, comme facilement assimilables. Et pour autant, eh bien, les conditions d'accueil qui leur ont été réservées, eh bien, étaient déplorables, hein, parce que rien n'avait été prévu. Rien n'avait été prévu pour les accueillir. Et une majorité de ces migrants portugais ont été contraints de vivre dans des conditions indignes. Dans des bidonvilles, notamment dans la proche périphérie de Paris. Je pense notamment au bidonville de Champigny-sur-Marne, qui demeure l'un des plus connus. Mais malgré tout, et c'est là aussi je dis que les Portugais ont toujours fait preuve de résilience, de courage, il y a une solidarité intracommunautaire qui s'organise, et la plupart, en fin de compte, vont décrocher des emplois alors plus ou moins précaires, hein, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'aide à la personne, dans les ménages. Beaucoup aussi vont accepter des postes de concierge pour les logements, les petits logements exigus qui accompagnaient la fonction, et ce qui va alimenter un certain nombre de stéréotypes. Et puis, au lendemain, en fin de compte, de ces années de migration, hein, là on arrive dans les milieux des années 70, début des années 80, un certain nombre de ces Portugais ont nourri l'espoir de pouvoir retourner au pays avec l'argent qu'ils avaient gagné en France pour acheter une maison, pour acheter un commerce ou bien investir dans des terres. Mais en fin de compte, bah, au cours des 20 ou 30 années qui a suivi leur migration en France, la plupart ont eu des enfants en France. Les enfants sont nés dans l'Hexagone. Et du coup, la majorité de ces migrants des années 50, 60, 70 ont fait le choix de rester définitivement dans leur pays d'adoption. Et comme j'aime bien le répéter, le cœur à moitié portugais, à moitié français.
Exactement comme mes parents, puisqu'effectivement, c'est cette question éternelle qui touche l'émigré, la question du retour, comment rentrer quand finalement une partie de la famille s'est intégrée, s'est installée définitivement dans le pays qui nous a accueillis.
Quand on sème les germes de nouvelles racines dans le pays d'adoption, c'est toujours plus compliqué d'en repartir.
Exactement. Et vous évoquiez l'historien Victor Pereira. Permettez-moi ici aussi d'évoquer le nom d'autres contributeurs, puisque parmi tous les chapitres de ce dossier consacré donc au Portugal et aux Portugais, il y a de nombreux spécialistes. Je pense ici aux historiens Jean-Yves Boriot et Yves Léonard, ou encore à l'auteur, traducteur, éditeur Michel Chandaigne.
Oui, on essaie toujours de faire appel à des historiens et historiennes qui soient le plus légitimes et les plus pertinents sur les sujets que nous choisissons. Et là, je pense que pour ce dossier sur les Portugais entre grandeur et nostalgie, on a des historiens parmi les meilleurs, sans conteste.
Et alors, ce sera ma dernière question, Éric Pincas. Tout simplement, où peut-on trouver cette revue Historia ?
Eh bien, vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes maisons de la presse, à Paris, en région. Vous pouvez trouver le magazine dans tous les kiosques, dans les relais, dans les gares, dans les aéroports. Le numéro est encore en vente pour quelques semaines. Donc, ne tardez surtout pas à vous le procurer. Et puis, vous pouvez aussi le consulter sur notre site web, dont je me permets de citer l'adresse www.historia.fr. Vous pouvez aussi vous consulter pour accéder au dossier en numérique.
Et cette revue s'appelle donc Historia, la revue du mois de mars 2026, s'appelle donc Portugais, grandeur et nostalgie. Merci beaucoup, Éric Pincas.
Merci pour votre invitation, merci beaucoup.